Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 7, fiançailles. Plus Tom cherchait à s'absorber dans son travail, plus ses idées vagabondaient. Il soupirait, il bâillait. De guerre lasse, il n'insista plus. Il lui semblait que l'heure du déjeuner n'arriverait jamais. La chaleur était accablante, sans un souffle d'air. Dormir semblait la seule occupation possible. Dans la classe, le murmure confus de 25 écoliers engourdissait l'esprit comme un bourdonnement d'abeilles. Au loin, sous un soleil de plomb, Cardiff Hill étageait ses pentes vertes à travers une brume de chaleur. À l'exception de quelques oiseaux qui planaient paresseusement et de quelques vaches qui sommeillaient, aucun être vivant n'était visible. Tom ne pensait qu'à une chose, être libre. En attendant, il avait besoin, pour passer le temps qui lui paraissait interminable, d'une occupation digne de monopoliser son attention. Il fouilla dans ses poches et soudain sa figure s'éclaira d'une lueur de gratitude qui, à son insu, était une prière. Il avait retrouvé la boîte à amorces qu'il retira avec précaution. Il en sortit le scarabée qu'il mit sur son pupitre. Peut-être l'insecte, lui aussi, fut-il pénétré d'une gratitude qui équivalait à une prière. Mais son illusion fut de courte durée, car lorsqu'il se mit en mouvement, Tom, à l'aide d'une épingle, l'obligea à changer de direction. Joe Harper, le grand ami de Tom, était assis à côté de lui. Il éprouvait les mêmes impressions et s'empressa de se passionner pour le spectacle qui s'offrait à lui. Pendant toute la semaine, les deux gamins étaient de grands amis. Et le samedi, ils se rencontraient sur le champ de bataille à la tête de leurs armées. Joe tira une épingle du revers de son feston et collabora à l'instruction du prisonnier. Devant l'intérêt croissant que présentait le jeu, Tom déclara bientôt qu'on ne s'y reconnaissait plus et qu'il n'y avait plus moyen de savoir à qui c'était le tour. Il mit sur le pupitre l'ardoise de Joe sur laquelle il traça une ligne de démarcation. Comme ça, quand il ira de ton côté, tu le dirigeras comme tu voudras. Je n'y toucherai pas. S'il vient de mon côté, tu le laisseras tranquille jusqu'à ce qu'il repasse du tien. Entendu. À toi de commencer. Au bout d'un moment, le scarabée s'enfuit de l'hémisphère Tom et passa l'équateur. Persécuté par Joe, il retourna chez Tom, et ainsi de suite. Pendant que l'un des gamins se consacrait à la conduite du scarabée, l'autre était tout aussi absorbé à le regarder faire. Le reste de l'univers n'existait plus pour eux. Les deux têtes étaient l'une contre l'autre au-dessus de l'ardoise. La chance paraissait sourire à Joe. Le scarabée essayait de passer d'un côté, puis de l'autre, puis revenait. Il finissait par être aussi agité, aussi impatient que les enfants eux-mêmes. Mais, à diverses reprises, quand le passage paraissait libre et qu'il avait, si on peut dire, la victoire à sa portée, un habile coup d'épingle de Joe lui faisait rebrousser chemin et le ramenait de son côté. Bientôt Tom n'y tint plus. La tentation devint trop forte. Il allongea le bras et intervint du côté qui lui était interdit. Joe sentit la moutarde lui monter au nez. « Tom, laisse-le tranquille. »«
Rien que pour le redresser, Joe. »«
Non, ce n'est pas de jeu. Laisse-le tranquille. »«
Oh, ça va, il ne s'agit pas de grand-chose. »«
Bats les pattes, que je te dis. »« J'y toucherai si je veux, après tout. »«
Il est de mon côté, ça n'a rien à faire. »«
Et dis donc, Joe, à qui est-il le scarabée ?»«
Ça m'est égal, il est de mon côté, tu n'y toucheras pas. »«
Je ferai ce qu'il me plaît. » Il est à moi, en fin de compte. Un formidable coup de badine tomba sur les épaules de Tom, puis sur celles de son voisin. Et pendant 2 minutes, on vit un nuage de poussière voler au-dessus des vestes de l'un et de l'autre, à la grande joie de toute la classe. Absorbés par leur jeu, les deux amis n'avaient pas remarqué qu'au bruit habituel avait succédé un grand silence. Pendant que, sur la pointe des pieds, le maître était venu voir ce qui les intéressait à ce point. Il avait même assisté à une partie de la représentation. avant d'y mettre fin par son intervention personnelle. La classe finie, Tom courut vers Becky et lui chuchota à l'oreille. « Mets ton chapeau et fais comme si tu rentrais chez toi. Quand tu seras arrivé au tournant, laisse passer les autres et reviens par la petite allée. Je ferai le même trajet en sens inverse. » Becky partit avec son groupe, Tom avec le sien. Peu après, les deux enfants se rencontrèrent et revinrent dans la salle de classe où il n'y avait plus personne. Ils s'assirent sur un banc avec une ardoise devant eux. Tom donna à Becky un morceau de craie et, guidant sa main sur l'ardoise, l'aida à dessiner une maison aussi merveilleuse que la première. Quand les questions d'intérêt artistique furent épuisées, le bavardage reprit ses droits. Tom demanda « Aimes-tu les rats ?»« Non, je les ai en horreur. »« Moi aussi, quand ils sont vivants. Je veux dire les rats morts, ceux qu'on fait tourner au-dessus de sa tête avec une ficelle. » Non, de toute façon, je ne les aime pas. Ce que j'aime, c'est le chewing-gum. Oh, moi aussi, je voudrais bien en avoir un morceau. J'en ai un. Je vais te le laisser mâcher un peu, mais après, tu me le rendras. Marché conclu. Ils mâchèrent chacun leur tour en balançant leurs jambes de contentement. As-tu jamais été au cirque ? Demanda Tom. Oui, et papa m'a promis de m'y emmener encore si je suis sage. J'ai été au cirque 3 fois. 4 fois. Tu parles, c'est autre chose que d'aller à l'église. Au cirque, il se passe tout le temps quelque chose. Quand je serai grand, je serai clown dans un cirque. Oh oui ! Comme ce doit être amusant de se peindre la figure comme ils le font. Et ils gagnent beaucoup d'argent, presque tous 1 $ par jour. C'est Ben Rogers qui me l'a dit. Dis Becky, as-tu déjà été fiancée ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, fiancée pour te marier ? « Non, jamais. Ça te ferait plaisir ?»« Peut-être, je ne sais pas. En quoi cela consiste-t-il »« En quoi cela consiste ?»« Cela ne ressemble à rien d'autre. Simplement, on dit à un garçon qu'on n'épousera jamais, jamais que lui, et puis on s'embrasse, et voilà tout. Tout le monde fait ça. S'embrasser ? Pourquoi s'embrasser ?»« Parce que c'est pour... Enfin, ils font tout ça, tous !» Mais oui, bien sûr, tous ceux qui aiment quelqu'un. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai écrit sur l'ardoise ?
Oui.
Qu'est-ce que c'était ? Je ne te le dirai pas. Veux-tu que je te le dise ?
Oui,
mais pas aujourd'hui.
Si, maintenant.
Non, pas maintenant, demain.
Si, maintenant, je te le dirai tout bas, dans le creux de l'oreille.
Becky hésitait. Qui ne dit rien ? « Consent, » pensa Tom. Il lui passa son bras autour de la taille et tout bas, timidement, bouche contre oreille, il murmura « Je t'aime » et ajouta « Dis-le-moi tout bas, toi aussi. » Elle résista un instant et finit par dire « Tourne la tête pour que tu ne me voies pas et je le dirai. Mais il ne faut raconter ça à personne, Tom. À personne, c'est promis, c'est juré. » « Je ne le dirai à personne, Becky. » Et il tourna la tête. Elle se pencha timidement jusqu'à ce que son haleine fit remuer les boucles de Tom et murmura « Je t'aime. » Alors elle se leva et, poursuivie par Tom, courut autour des bancs et des pupitres pour se réfugier finalement dans un coin en se protégeant le visage de son tablier. Tom la prit par le cou. « Eh bien, Becky, maintenant, nous n'avons plus qu'à nous embrasser. N'aie pas peur. » Et il lui tirait les mains qui tenaient le tablier. Petit à petit, elle céda et baissa les mains. Elle était toute rouge. Tom l'embrassa. « Voilà, Becky, et maintenant, tu n'aimeras plus personne d'autre que moi. Et tu n'épouseras personne d'autre que moi. C'est promis ? Je n'aimerai plus personne d'autre que toi. Et je n'épouserai personne d'autre que toi. Mais toi aussi ? Tu n'épouseras personne d'autre que moi ?
Bien sûr, ça va de soi, ça en fait partie.
Et en allant à l'école ou en revenant à la maison, nous serons ensemble quand personne ne nous verra. Et dans les réunions, tu me choisiras toujours et je te choisirai toujours. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est fiancé.
C'est gentil tout plein, je ne savais pas.
On va bien s'amuser. Lorsque Amy, Laurence et moi, à la façon dont les grands yeux le regardèrent, Tom comprit qu'il avait fait une gaffe. Affolé, il se tut. Tom, alors je ne suis pas la première avec qui tu t'es fiancée. » Et Becky se mit à pleurer.
« Ne pleure pas, Becky, je t'assure qu'elle n'a plus d'importance pour moi.
Ça n'est pas vrai, Tom, je ne te crois pas. » Tom tenta de lui passer le bras autour du cou, mais elle le repoussa, se tourna vers le mur et continua à pleurer. Tom pria, supplia. Elle le repoussa à nouveau. Alors, il en fit une question d'amour-propre. Il sortit à grands pas de la salle de classe. Un moment, il attendit, agité et mal à l'aise. De temps à autre, il regardait la porte, espérant que Becky allait se raviser et venir le rejoindre. Peine perdue. Alors, il commença à s'inquiéter et à se demander si ce n'était pas lui qui était dans son tort. Il eut beaucoup de mal à se résoudre à faire de nouvelles avances, mais il prit son courage à deux mains et rentra. Becky était toujours dans son coin, face au mur. Elle pleurait toujours. Le cœur du gamin battait à se rompre. Tom s'approcha d'elle, gauchement, ne sachant pas très bien comment s'y prendre. Hésitant, il balbutia.
« Mais Becky, je t'assure que je n'aime que toi. »
Pour toute réponse, des larmes. « Becky, supplia-t-il, dis-moi quelque chose. »
Encore des larmes.
Alors Tom sortit de sa poche ce qu'il avait de plus précieux, un anneau de cuivre qui provenait d'un chenet. Il le lui tendit de manière qu'elle pût le voir.
« Tiens, Becky, prends, je te le donne. »
Elle le jeta par terre. Alors Tom sortit de l'école avec l'intention de s'enfuir dans la campagne et de ne plus retourner en classe ce jour-là. Becky en eut le pressentiment et devint inquiète. Elle courut à la porte, personne. Elle sortit dans la cour, pas de Tom. Alors elle cria
« Tom, reviens, Tom !»
Elle écouta anxieusement, mais aucune réponse ne lui parvint. Autour d'elle, tout était silence et solitude. Elle s'assit pour donner libre cours à son chagrin, pour se faire à elle-même des reproches. À ce moment, ses camarades commencèrent à reparaître dans la cour. Il lui fallut cacher ses larmes, imposer silence à son cœur et s'infliger le supplice d'un long, morne et pénible après-midi, pendant lequel elle n'aurait auprès d'elle personne à qui se confier.